Retrouvons le médecin Guillaume Perronnet, tiré du roman historique 1352, Un médecin contre la tyrannie.
Messire de la Tour.
Maître Perronnet, vous voilà déjà courir le pays. Comment se portent mes gens?
Ces gens? Le sire de la Tour prenait ses désirs pour des réalités. Il possédait certes de nombreux fiefs éparpillés entre Comté, Chouzon et Frutigen, mais seul le comte-évêque régnait sur ses sujets valaisans. Il cherche à me tester, se douta Guillaume.
Les paysans de la plaine se plaignent de torticolis. Sans doute à trop se tordre la nuque lorsque, entre chaque coup de pioche, il lève les yeux vers votre nid d'aigle.
Le sire de Châtillon se rapprocha du muret qui bordait la cour côté falaise. Il scruta la plaine en contrebas, comme pour vérifier le propos de Guillaume.
Comment savoir si c'est mon donjon qu'ils observent ou simplement le ciel dont dépendent leurs récoltes? D'ailleurs, le froid peut revenir en cette saison. Et vous n'avez point revêtu votre manteau? Mon ami.
Un bon montagnard voyage léger, car il connaît les refuges et possède des amis qui l'abriteront à l'étape.
Approche, Guillaume, et contemple ton pays.
Première phase de l'examen réussie, se dit Guillaume en avançant vers le muret où il appuya ses mains. La vue était à couper le souffle. Toute la plaine s'étalait à ses pieds. Le regard portait jusqu'aux collines de Valère, Tourbillon et Montorgueil qui les dominaient en arrière-plan. Plus près, il apercevait les châteaux de Chalais et celui de Granges, entourés par les marais et les méandres du fleuve.
Mon grand-père a érigé ce château durant les 5 années de guerre où il a combattu l'évêque Boniface. La traversée du pays était devenue pour lui extrêmement périlleuse. Il risquait d'être attaqué à tout moment lors de ses déplacements entre nos possessions qui sont disséminées dans tout le pays. Or, nous nous trouvons ici à égale distance entre Comté et Châtillon. C'est donc sur cet emplacement idéal que mon grand-père a jeté son dévolu pour construire une tour de garde. Nous nous trouvons à 7 lieues de Comté à l'ouest et à 7 lieues de Châtillon à l'est. D'ici, nous guettons tout déplacement suspect à travers la plaine et nous surveillons l'accès au Val d'Anivier. Nous apercevrions immédiatement toute incursion bernoise par le col du Raville. Et surtout, je peux voir ce que l'on sert à manger au vidôme de Sierre.
De cette hauteur, on avait en effet une vue plongeante sur toute l'activité régnant à l'intérieur de la haute cour du château épiscopal de Sierre.
Et connaissant mon grand-père, je fais le pari que le seul fait de pouvoir dominer ainsi l'évêque fut une raison suffisante pour construire Beauregard.
Une petite brise venant du Bavalais se leva et la bannière de la tour Châtillon faséilla en haut de son mât.
Simple et efficace. J'utilise encore le stratagème de mon grand-père. En remontant la vallée, un de mes hommes garde l'œil rivé sur la bannière. Elle flotte, tout va bien. Elle est en berne, il se passe quelque chose.
Mais comment le sire Jean d'Anivier tolère-t-il ce château sur ses terres?
À la limite de ses terres.
Pierre ramassa un petit caillou et le lança en direction du puits par-dessus la courtine. Lorsque la pierre disparut dans le vide, il ajouta
« Là, c'est Anivier. »
Il se racla la gorge, se tourna vers le nord et cracha par-dessus le muret.
« Là, c'est la terre épiscopale. Et ici, c'est moi. D'ailleurs, ce n'est pas ce bonnet de Jacques d'Anivier qui aurait contesté le bon droit de mon grand-père. Cet illuminé a préféré partir en croisade, libérant ses paysans de toute redevance. Quelle infamie ! »
Guillaume connaissait l'étonnant épisode du preux chevalier Jacques d'Anivier, parti combattre le Sarrasin, abandonnant son fief et libérant serfs et vilains de la taille et du champard.
N'est-ce pas là ce qu'enseigne le Christ? De laisser ses richesses pour le suivre sur le chemin de Jérusalem?
Comme un parfait trou du cul, oui, qui s'est fait accornardir comme bien d'autres par les appels du pape et de ses évêques. Sans dame Guigonne, sa veuve, qui a repris la seigneurie en main, Anivier serait aujourd'hui en ruine. La noblesse a tout perdu en croisade. Et dis-moi, à qui cela a-t-il profité ? Hein ?
Mis à part en Anivier, Guillaume dut convenir qu'à chaque fois, l'église ou les ordres monastiques avaient tiré bénéfice du départ et surtout du non-retour des croisés. Le serviteur arriva, une cruche à la main, et remplit deux gobelets d'une eau fraîche qui fit le bonheur de Guillaume. Il remarqua l'ingénieux dispositif de récupération des eaux pluviales de toiture au moyen de rigoles et de canalisations qui conduisaient le précieux liquide dans la citerne située en contrebas.
Je viens de la refaire à neuf car l'ancienne fuyait. Or, en cas de siège, le soleil s'avérerait le pire ennemi de Beauregard.
En quoi le modeste physicus que je suis pourrait vous être d'une quelconque utilité dans toutes ces considérations stratégiques ?
Ce pays est malade, Guillaume. C'est pourquoi j'ai besoin d'un physicus tel que toi, pour le soigner.
Il a pourtant l'air bien portant.
Parce que tu ne le regardes pas d'assez près.
Pierre enjamba résolument le muret qui les séparait du vide. Guillaume se pencha et vit qu'il restait un petit escarpement de rocher sur lequel Pierre avait pris appui.
Rejoins-moi si tu ne crains pas le vide. Je vais t'instruire de politique.
Début du test numéro 2, se dit Guillaume, qui, ayant le pied montagnard, se piqua au jeu et rejoignit Pierre au fin bord de la falaise.
Ce pays est sciemment maintenu en état de faiblesse. Il est tondu par les seigneurs locaux, trait par l'évêque, et saigné par la Savoie. Chacun s'engraisse à ses dépens, mais aucun ne souhaite réellement unifier le Valais en un État puissant. Car celui qui contrôlerait les cols du Simplon et du Montjoux détiendrait trop de pouvoir sur les autres. Alors mieux vaut laisser cette terre déchirée par ceux qui s'en repaissent. Une situation savamment entretenue par le pape et par l'empereur.
Pourtant l'évêque aime le peuple. Il a octroyé moult franchises aux communes dont il réunit chaque année les syndics afin de les informer de ses intentions et de leur soumettre les traités à ratifier.
Certes, mais les évêques changent et le nouveau n'est pas tenu de reconnaître les franchises concédées par son prédécesseur. Tous les avantages seront alors perdus. Dans ce cas, ce serait la révolte. C'est l'éventualité sur laquelle parie le comte de Savoie. Une révolte que le nouvel évêque risque de ne pas pouvoir contenir. Le comte attendra alors patiemment que le chaos s'installe pour débarquer ensuite, tel un prince de paix, en rétablissant l'ordre, tout en faisant main basse sur le Valais.
Jamais les communes, ni la noblesse du pays n'accepteront la mainmise savoyarde sur la terre épiscopale. Souvenez-vous de Morgarten. Les paysans schwitzois et uranais ont défait le duc Léopold de Habsbourg qui voulait supprimer leurs privilèges.
C'est une bonne comparaison. À la différence que ces paysans étaient solidaires et unis par un pacte. Au contraire d'ici, où chaque commune ne vise que ses propres intérêts. Chacune négocie séparément ses franchises. Chacune dispute ses pâturages aux villages voisins.
Pierre pointa le lit du Rhône sous leurs pieds, à l'endroit où la Navisance mariait ses eaux transparentes au flux gris du fleuve. Une dizaine d'hommes s'agitaient sur la berge, déplaçant des blocs de pierre.
Observe leur manège. C'est amusant. Le fleuve marque la limite de leur village. Ils tentent donc d'en modifier le cours en construisant des barrières orientées de manière à ce que le courant dépose les alluvions de leur côté, tout en érodant les berges d'en face, afin de gagner du terrain sur Sierre, la commune voisine.
Guillaume connaissait bien ces stratagèmes cause de querelles entre riverains. Certaines communes, comme Saillon et Saxon, avaient même réglé le litige en établissant une règle autorisant les barrières défensives, censées protéger leurs rives de l'érosion, mais interdisant les barrières offensives qui dirigeaient le courant contre la rive opposée. Il dut admettre que sur ce point, Pierre de Châtillon avait raison.
Les Valaisans sont comme ces vaches noires et blanches de mon fief de Mage. Elles appartiennent toutes à la même race et pourtant, chaque année, leur instinct les pousse à s'affronter afin d'établir une hiérarchie qui ne dure, allez savoir pourquoi, qu'une saison. Et ensuite, tout recommence. Comment veux-tu dans ces conditions que ce pays s'affirme comme un État puissant ? Finalement, la seule liberté que méritent les habitants du Valais, c'est de choisir quel sera leur maître.
Pierre s'était tu, le regard fixé sur l'horizon crénelé des cimes blanches, dessinant ce formidable rempart naturel entre la vallée et le reste du monde.
C'est donc cela ? Vous espérez que je sois votre apôtre auprès du peuple, afin qu'on vous désigne comme chef d'un soulèvement ?
Le cours de l'histoire ne s'infléchit pas aussi facilement que le cours d'une rivière. Il faut pour cela réunir trois conditions : la légitimité, la force et la foi. J'apporte la légitimité du fait de l'immédiateté impériale dont jouit mon lignage. Mais pour que le peuple devienne une force, il faut qu'il ait foi en son destin. Or, quand le moment viendra, tu seras celui qui incarne ce destin. Tu étais un petit chevrier, orphelin d'un père mort sur le champ de bataille, et te voilà à peine rentré de la prestigieuse université de Bologne, sauveur de la lignée de Blandrate. Tout cela parce qu'un beau jour, par un acte de courage insensé, tu as risqué ta vie pour un prince. Le symbole est évident. Et le peuple a besoin de signes forts pour croire en un avenir meilleur.
Le seigneur de Châtillon s'était encore approché du bord. L'extrémité de ses poulaines flottait maintenant dans le vide. Il eût suffi que Guillaume le pousse pour qu'il bascule.
Je n'ai nulle envie d'épouser votre cause. J'ai choisi de soulager mes semblables, alors que vous êtes prêt à déclencher un nouveau bain de sang pour satisfaire l'insatiable besoin de puissance de votre famille.
Je ne m'attendais pas à ce que tu te rallies à moi alors que nous sommes en temps de paix. Mais sache que lorsque les conflits éclateront, si tu n'as pas choisi ton camp, alors un camp te choisira. Ce que je te demande, c'est simplement de réfléchir à tout ce que je t'ai dit, afin que le jour venu, tu fasses le bon choix. Un sage grec a dit que celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste. Or, il me semble que tu es un homme sage, Physicus.
Guillaume se sentit la gorge sèche. Tout en réprouvant les machinations de Châtillon, il ne pouvait lui donner tort sur ce dernier point. Il pressentait qu'une fois de plus, il allait être le jouet de la noblesse. Il saisit le gobelet qu'il avait laissé sur le muret derrière lui et le vida d'un trait.
Je sais que tu ne m'aimes pas. Je l'ai vu à ta façon de baisser les yeux tout à l'heure en me saluant. Ce n'était pas par respect et par crainte que je lise la haine dans ton regard. Et pourtant, tu ne lèveras pas la main sur moi. Tu pourrais me précipiter dans le vide à l'instant. Peut-être y songes-tu. Mais tu es incapable d'agir à l'encontre de ce que tu crois juste, car tu perdrais alors la seule chose que tu possèdes, l'innocence.
Guillaume se sentait pris au piège, manœuvré, utilisé par le loup de Châtillon. L'enivrant sentiment de liberté qu'il avait envahi le matin même sur le chemin s'évanouissait alors que le seigneur continuait.
Moi, je ne représente ni l'innocence ni la justice aux yeux du peuple. Toi, oui. Ils auront foi en toi. Tu seras donc à mes côtés, Guillaume. Tu seras ma caution. Tu seras mon bras. Tu seras
votre dague, messire.
Stupéfait, Châtillon eut un mouvement de recul devant la pointe de la dague que Guillaume avait sortie de sa besace. Les talons dans le vide, il battit des bras pour tenter un rétablissement. Guillaume le saisit alors par la boucle de son ceinturon et le tira vers lui. Pierre s'agrippa par réflexe à ses épaules. Guillaume eut juste le temps d'écarter son bras droit pour que Pierre ne vînt pas s'embrocher sur la dague. Ils se retrouvèrent dans cette position embarrassante, Pierre tenant Guillaume dans ses bras comme dans une cérémonie de l'hommage et Guillaume, sa dague posée sur l'épaule de Pierre comme s'il l'adoubait. Guillaume assura sa prise sur le mur de son bras libre.
« Ne vous méprenez pas sur mon geste. Je ne fais que vous rendre ce qui appartient à votre famille. »«
Nom de Dieu, Péronée ! Vous avez failli m'embrocher !»
Il lâcha Guillaume pour repasser de l'autre côté du muret. Il se retourna et focalisa son attention sur l'arme que celui-ci lui tendait, sans oser s'en saisir. Guillaume fit virevolter l'arme dans sa main et la rattrapa par la lame, de sorte que Pierre puisse en voir le manche.
« Mais c'est la dague de mon père ! D'où sort-elle, foutre Dieu ?»«
Du ventre du mien !»